Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h, c'est avec vous Céline Landreau, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Édition dans laquelle on reviendra bien sûr sur la mobilisation contre la réforme des retraites à venir jeudi et sur les tentatives du gouvernement pour déminer la colère sociale. L'indemnité carburant entre en vigueur aujourd'hui et le panier anti-inflation sort des cartons, des produits de première nécessité vendus au plus bas prix. C'est le projet de l'exécutif qui n'emballe pas à ce stade les grandes surfaces. On vous expliquera tout à 12h40. Dans ce journal également, un jeune de 16 ans mort poignardé ce matin devant un lycée de Thiès. Le mafieux le plus recherché d'Italie, enfin arrêté après 30 ans de cavale. Et puis on vous parlera paracétamol, il en manque en pharmacie. Pourtant, on n'en a jamais autant produit en France, du Doliprane ou de l'Efferalgan. Notre enquête RTL, ce sera dans une dizaine de minutes. Juste avant ça, RTL toujours plus proche de vous, RTL Midi un jour chez vous. Aujourd'hui, on part, Pascal,
à Pau,
à la rencontre d'un jeune chef qui ouvre son restaurant alors qu'il n'a que 19 ans. À midi 20, RTL Midi, votre ville, a plongé dans votre quotidien, jaune, verte, grise. On va parler poubelle et tri. Si, si, vous allez voir, après ça, vous saurez où jeter vos déchets. Enfin, juste avant 13h, LVT Midi, on ira retrouver Stéphane Boutsock au Festival de cinéma de l'Alpe d'Huez. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos de la réforme des retraites. Connaissez-vous votre année de départ en retraite?
Autre question qu'on posera, bien sûr, c'est est-ce que vous allez manifester jeudi? Tous ces sujets, bien sûr, nous les aborderons entre 13h et 14h30 avec les auditeurs au 3210.
Avant ça, la météo, c'est avec vous aujourd'hui, Peggy Broche. Bonjour.
Bonjour Céline, bonjour à tous.
Gérard a déferlé sur la France, on en parlera dans le journal. Qu'est-ce qui nous attend cet après-midi? La tempête toujours ou c'est fini?
Elle est en train de s'évacuer vers l'est, mais on a encore un temps bien agité et bien perturbé.
Merci Peggy, la météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
Et pour commencer donc cette dernière minute, on l'a appris en fin de matinée, un jeune de 16 ans a été tué ce matin à coups de couteau devant son lycée de Thiès dans le Val-de-Marne lors d'une rixe. Un autre adolescent a été blessé à la cuisse, son pronostic vital n'est pas engagé. Les agresseurs, eux, sont en fuite. On sera sur place dans le journal de midi et demi.
Les tortionnaires du petit Yanis, eux, vont devoir s'expliquer devant la cour d'assises de Douai.
Yanis avait 2 ans en décembre 2018 quand sa mère l'a déposé chez des amis pour 15 jours. 2 semaines de torture pour le petit garçon qui a frôlé la mort et qui garde aujourd'hui encore de lourdes séquelles de ces violences. Violences sur lesquelles les accusés sont entendus aujourd'hui, Franck Hanson, mais leurs explications ont du mal à passer.
Oui, et la présidente Sylvie Carras n'y va pas par quatre chemins pour interroger, bousculer même ses accusés. Il y a un laps de temps où le gamin, il s'en prend plein la figure, il souffre, il est humilié. Et pourquoi ça recommence? Silence gêné dans le box. Sébastien, le plus lourdement impliqué, qui a eu une liaison avec la mère de Yanis, ne s'étend pas trop. Il était turbulent, je sais pas expliquer. Et puis ce trentenaire, père de famille, évoque sa consommation d'alcool. J'étais pas bien, dit-il, je me suis acharné dessus. La magistrate brandit les photos du petit garçon de 2 ans, martyrisé, les bosses au visage, les fractures sur les jambes, on lui sautait dessus et les rougeurs sur le sexe. Ça, c'est pas moi, dit l'un de ses bourreaux. Et dans ce contexte, avec un enfant qui ne tenait plus debout ses multiples fractures, personne n'a donné l'alerte. Coraline, la marraine de substitution, fond en larmes. Je suis un monstre d'avoir laissé faire ça à un enfant, il devait être mal. Enfin, c'est par peur de son mari qu'elle n'aurait pas réagi, comme Kevin, l'un des autres accusés qui évoque des menaces. Pourtant, il revenait, lâche Sébastien, et les soirées se sont répété à Auberchicourt. Et les claques, les coups, les humiliations ont repris pour Yanis. Il s'en est fallu de peu, rappelle la présidente, qu'il ne soit plus de ce monde.
Franck Hanson aux assises de Douai pour RTL.
RTL Midi.
La tempête Gérard a déferlé sur le nord-ouest du pays cette nuit.
Et aujourd'hui, 90 000 foyers sont toujours privés d'électricité. C'était le cas en tout cas en fin de matinée dans l'ouest du pays. Des records ont été enregistrés, records de vent. 174 km/h par exemple à la pointe du Raz dans le Finistère. Mais ça a soufflé aussi dans la Manche, Sébastien Rouxel, avec quelques dégâts.
Oui, ça a soufflé très fort même à Barneville-Carteret, jusqu'à 163 km/h enregistrés dans la commune. Pas d'incident majeur, mais tout de même quelques dégâts, raconte David Le Gouet, le maire, au micro de nos confrères de M6.
On a eu, au réveil, quelques arbres arrachés donc, qui ont coupé les routes. Et là, depuis 8h, les services techniques sont à pied d'œuvre pour remettre tout en état.
Quelques arbres sont pris dans les fils électriques ou les prises téléphone. Là, donc Enedis est contacté, Orange aussi, pour qu'ils viennent débrancher les câbles avant de finir de couper les arbres pour mettre tout le monde en sécurité, pour retirer.
Des chutes d'arbres qui, sur le reste du territoire, paralysent depuis ce matin une partie du trafic ferroviaire. Pas de trains régionaux nomades en Normandie sur cette ligne. Reprise du trafic cet après-midi normalement. Des perturbations également en Île-de-France. Le RER E et les lignes L et P du Transilien sont concernés. Par ailleurs, côté TGV, le trafic est interrompu entre La Rochelle et Paris. Il reprendra vers 16h30. Comptez du retard aussi pour les TGV direction la Bretagne et les Pays de la Loire entre 1h et 1h30. Retard.
Merci Sébastien Rouxel.
À 3 jours de la première grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites, ce sera jeudi, vous le savez, le gouvernement tente de déminer, même si Aurore Berger hier, j'avais pas le sentiment vraiment qu'elle tentait de déminer, et ce gouvernement met en avant ses mesures sociales.
Oui, alors que l'idée d'un panier anti-inflation fait son chemin pour que les grandes surfaces vendent des produits de première nécessité au prix les plus bas possibles, on y reviendra à 12h40. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assurait lui ce matin le service après-vente de l'indemnité carburant qui entre en vigueur aujourd'hui, on vous en a déjà parlé. L'indemnité carburant, ce sont ces 100 € pour les Français qui utilisent leur voiture pour aller travailler, c'est sous condition de ressources. On peut donc la demander depuis ce matin sur Internet. Pierre Herbulot, vous l'avez fait, ou presque, pour nous, expliquez-nous comment ça marche.
Alors, deux possibilités, on va dans un centre des impôts ou sur le site internet impots.gouv.fr, mais je vous avoue qu'en me connectant sur mon espace client ce matin, j'ai pas trouvé comment faire la demande. Alors, c'est le seul petit couac, parce que ensuite, en tapant dans le moteur de recherche sur internet indemnité carburant, j'ai tout de suite trouvé la page dédiée. Alors, ça s'appelle demande d'indemnité carburant, avec le petit logo des impôts en haut à gauche, c'est important. Alors, le gouvernement avait promis que ce serait extrêmement simple. Franchement, c'est le cas. Toutes les fois à remplir tiennent en une page, nom, prénom, mail, date et lieu de naissance. Ensuite, j'ai rentré mon numéro fiscal, la plaque d'immatriculation de ma voiture, plus un numéro inscrit sur la carte grise. Même la déclaration sur l'honneur pour dire que j'utilise bien ma voiture pour aller travailler, c'est juste une petite case à cocher. Reste plus qu'une étape, une autre case à cocher, cette fois pour certifier de l'exactitude de toutes les informations saisies. Et puis aussi prendre connaissance des sanctions en cas de fraude. Un remboursement de la somme perçue majoré de 25%. Alors vu que je viens en métro à RTL, je me suis arrêté là. J'ai pas envie de me fâcher avec l'administration fiscale. Mais pour une fois, il faut le dire, c'est simple et rapide. Les premiers versements de l'indemnité se feront ensuite exclusivement par virement bancaire dès le 27 janvier.
Merci beaucoup Pierre Herbulot.
Un coup de pouce de 100 €, la somme paraît bien dérisoire au regard des chiffres avancés par l'ONG Oxfam sur le profit des milliardaires.
Oui, la crise économique semble glisser sur les grandes fortunes françaises, Martial You. Elles se sont enrichies, on parle d'un gain de 57% quand même depuis le début du Covid. Alors, comment expliquer ça alors que les classes moyennes, elles tirent la langue?
Alors, c'est vrai que le constat donne un peu le tournis. Depuis janvier 2020 en France, les 10 plus gros milliardaires ont accumulé 189 milliards. Ça signifie, dit Oxfam, qu'ils pourraient payer à eux 10 la facture de gaz, d'électricité et le plein d'essence de tous les Français pendant 2 ans.
Mais c'est leur entreprise, c'est pas...
Bien sûr.
Oui, mais il faut le dire.
Oui, mais j'allais le dire.
Ah oui, parce qu'on a l'impression que c'est la chasse aux milliardaires. C'est alors, les entreprises le qui ont gagné de l'argent.
J'allais le dire. C'est en réalité
et c'est virtuel.
La proportion de ce qu'ils ont dans ces entreprises.
Alors, et c'est virtuel.
C'est virtuel. Non, ils en ont évidemment l'usufruit pour une partie. Simplement, la différence, c'est que ça peut varier du simple au double d'une année sur l'autre. Là, ce que ne dit pas Oxfam, et c'est là où il y a un petit biais, évidemment, c'est que, certes, la fortune des milliardaires a énormément progressé sur 2 ans, mais si l'on regarde les plus gros milliardaires du monde, si on prend Elon Musk, il a perdu 200 milliards l'année dernière.
Le pauvre.
Le pauvre Mark Zuckerberg, patron de Facebook, a vu sa fortune divisée par 2.
Arrêtez.
Ça vous donne une idée que de la variation que vous évoquiez, mais évidemment qu'il y a un différentiel avec la situation de monsieur et madame tout le monde qui est énorme. Bernard Arnault, qui est l'homme le plus riche de la planète, parce que depuis... Oui,
400 milliards.
Et si on veut avoir visualisé un tantinet sa fortune, il faut savoir que si on gagnait au loto tous les jours depuis 1918, on n'atteindrait que la moitié de sa fortune aujourd'hui.
400 milliards.
Voilà.
Et puis, il faut pouvoir jouer au loto tous les jours en plus. Merci beaucoup, Martial Liu, chef du service économie d'RTL. La météo, on vous retrouve, comme promis, Peggy Broch. On a parlé dans le journal de Gérard, la tempête qui a frappé l'ouest du pays cette nuit. Ça s'annonce un peu plus calme pour les heures à venir.
En fait, cette tempête, elle est en train de s'évacuer par les frontières du nord et de l'est, mais on a toujours 17 départements qui sont en vigilance orange. Alors, il y a plusieurs vigilances. Hein. Vigilance orange, neige, verglas pour la Lozère et le Cantal, orange cru pour le Pas-de-Calais et vigilance orange vent pour 14 départements entre la Seine-Maritime, l'Île-de-France et la Marne. Donc ça va encore bien souffler cet après-midi. Les pluies, je vous le disais, elles se dirigent vers les frontières du Nord et les frontières de l'Est avec quelques flocons sur les frontières du Nord. On a pas mal de neige sur les reliefs, sur tous les reliefs et on en a besoin à basse altitude. Attention d'ailleurs au risque d'avalanche aussi bien sur les Alpes que sur la Corse. La Corse où il y a également beaucoup de pluie et du vent. C'est bien pluvieux également dans le sud-ouest et puis partout ailleurs sur un large quart nord-ouest du pays, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, mais avec des coups de tonnerre possibles sur la façade atlantique, voire du grésil. On a une petite poche d'éclaircies du côté de la Méditerranée et également entre la Normandie et en allant vers le centre, mais ça reste quand même assez gris dans l'ensemble et les températures sont en baisse. On revient enfin à des températures de saison globalement sous les 10 degrés. On est entre 6 et 9 degrés sur l'ensemble du pays et jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
RTL Midi, un jour chez vous. Chaque jour, l'info plus près de vous.
Et aujourd'hui, direction Pau dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Philippe de Maria.
Bonjour Céline, bonjour Pascal.
Vous nous amenez à la rencontre de celui qui est certainement le plus jeune chef cuisinier de France. Il s'appelle Ziane Baudou. Il a 19 ans seulement, mais déjà beaucoup de caractère.
Ouais, il n'en manque pas de caractère, Ziane Baudou. Il m'accueille devant Obsidienne, c'est son resto en plein centre de Pau. Son nom s'étale en grand sous celui de son restaurant. Ziane capitalise en fait sur sa notoriété médiatique. Vous vous en souvenez peut-être, c'est un ancien participant de Top Chef. Il a ouvert son établissement en décembre. Gros caractère, vous disiez Céline. Bah, en fait, après un mois et demi d'ouverture, il vient de virer toute l'équipe.
Premier jour, c'était catastrophique. C'était vraiment horrible. Ici, la première équipe, ça a été très très compliqué. Il y a eu un gros ménage de fait. Et maintenant, oui, c'est redevenu, voilà, il y a vraiment des passionnés. Celui que j'ai en cuisine avec moi, Ismaël, qui est plus âgé que moi, ils sont tous, vraiment, je suis le plus jeune dans l'entreprise. Le plus important, c'est quand même bien savoir s'entourer. On y arrive petit à petit.
Donc il a fait le ménage et redémarre à zéro, oui. Un mois après son ouverture. Il faut dire que démarrer une affaire à 19 ans, c'est un gros pari.
On peut dire ça, c'est un rapide. Ziane, originaire de Pau, ses parents sont musiciens. Il cuisine depuis tout petit avec son père. Il est passé chez Guérard, chez Etchebest. Ziane s'installe donc dans sa ville. Alors, il n'a pas gagné au loto. Il ne fait pas partie de la famille Arnaud dont vous parliez tout à l'heure. Il a dû rencontrer sa banquière, forcément, comme tout le monde. Eh ben, elle a très bien réagi face au projet de ce très, très jeune entrepreneur.
Alors, j'ai eu la chance d'avoir une banquière particulièrement compréhensive qui m'avait dit « si je mise tout de suite sur vous comme ça, je vous prête rien ». Prêter à des très jeunes comme ça, c'est plutôt particulier. Mais voilà, c'est ce qu'elle m'avait dit, qui m'avait marqué. Prêter à quelqu'un sur ce qu'il est capable de faire ou ce qu'on voit qu'il est capable de faire dans le futur, c'est plutôt un pari, voilà. J'ai simplement expliqué mon projet, l'idée de ce que je voulais développer derrière ce projet, parce que c'est une infime pierre, c'est la première, c'est toujours la plus dure, hein, surtout. Mais c'est une toute petite pierre comparée à ce que j'aimerais arriver à faire. Mais on en est très loin encore.
On entend, on perçoit l'ambition de Ziane Baudou dans ses propos. Philippe, parlez-nous un peu de ce qu'il y a dans l'assiette, sa cuisine, c'est quoi ?
Oui, alors Ziane parle d'écosystème, en fait, de produits locaux qu'il va pousser le plus loin possible. Écoutez, son esprit créatif est très, très fertile.
Un plat écosystème qu'on fait, c'est le saumon des Pyrénées, donc avec un bouillon de feuilles mortes. On récupère les feuilles mortes qui sont autour des gaves et des rivières des Pyrénées. On en fait tout un bouillon avec des carottes sauvages, pareil, qu'on récupère et qui sont glacées avec miel des Pyrénées, miel de fleur d'acacia et citron. On essaie de faire le mieux possible et allez, ce qu'on a.
Et Ziane Baudou remplit sa salle avec ses 24 couverts midi et soir, 37 euros le midi, 70 euros le soir avec 8 plats. On est quand même dans le gastro assez, assez cher. C'est souvent complet, en tout cas, ça démarre fort pour lui dans sa bonne ville de Pau.
Merci beaucoup Philippe de Maria, à Pau donc pour RTL et au resto aujourd'hui.
Merci Philippe, vous ne nous avez pas donné mal à la tête, ça tombe bien parce qu'il n'y a plus de Doliprane. Mais on va en parler avec Virginie Garin peut-être dans une seconde, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
Les gélules sont vraiment très en tension. Donc là, je n'ai plus de boîte dans cette marque-là. Donc il va falloir que j'aille voir un autre fournisseur. Puis rappeler les gens au bon sens qui viennent nous prendre deux boîtes aujourd'hui et deux boîtes dans trois semaines. C'est mieux que d'en acheter quatre aujourd'hui.
Une pharmacienne à Paris en octobre dernier qui parlait de cette pénurie de Doliprane, le médicament préféré des Français. Vous en avez forcément entendu parler. Et pourtant, en France, comme RTL vous le révélait ce matin, les usines tournent à plein régime. Bonjour Virginie Gahin.
Bonjour.
C'est vous qui avez réalisé pour RTL cette enquête. Un chiffre pour commencer, 424 millions de boîtes de Doliprane ont été produites par Sanofi l'an dernier.
Oui, record absolu depuis que le Doliprane existe, depuis 1964, plus 20% pour la petite boîte jaune qui est produite à Lisieux, et même 49% pour le sirop pour enfants à la fraise, vous savez, le flacon rose.
Et comme quand on parle de Doliprane, on parle paracétamol, il est important de signaler, Virginie, que le concurrent UPSA, qui fait le Dafalgan et l'Efferalgan, je pense que les auditeurs connaissent, a lui aussi augmenté sa production.
Voilà, Doliprane, c'est du paracétamol, donc la marque de Sanofi, mais il y a aussi UPSA qui a également fortement augmenté sa production à Agen. Au total, on a eu sur le marché cette année près de 100 millions de boîtes de paracétamol en plus.
Mais alors, comment on explique qu'on en manque encore?
La forte hausse de la demande, à cause évidemment de tous les virus d'hiver et du Covid, plus de malades à soigner. Et puis il y a l'effet tournesol. Les Français ont peur de manquer et ont fait des stocks. Les médecins ont visiblement aussi beaucoup prescrit. Il y a 80% du Doliprane qui se vend sur ordonnance, mais ça n'explique pas tout. Alors les économistes et spécialistes de la santé publique qui suivent ce dossier parlent de mauvaises prévisions stratégiques des laboratoires. Les virus d'hiver, ça peut se prévoir.
Est-ce que toutes les boîtes ont été livrées en France ou une partie a pu être exportée?
Eh bien, bonne question Pascal. Les syndicats ou associations de patients se la posent. Ce n'est pas interdit, hein. Le marché est libre. Il y a souvent des médicaments qui sont exportés dans des pays où ils sont vendus plus cher. Après, en pleine crise sanitaire, bon, le gouvernement étudie la chose de près. Et d'ailleurs, l'agence du médicament a fini par interdire les exportations aux grossistes en juillet dernier. Le syndicat des pharmaciens demande en fait plus de transparence sur ce parcours des boîtes, hein, de la production à la pharmacie en passant par les grossistes.
Mais alors, comment on peut éviter les pénuries si on produit déjà assez en théorie ?
Alors, une particularité pour le Doliprane, qui est un vieux médicament, il n'y a plus de brevet protégé, mais il n'a pas de générique. Le gouvernement a ainsi voulu protéger ces deux laboratoires français pour sauver leurs emplois. Donc, ils ont une hégémonie sur le marché. Sanofi produit, figurez-vous, 95% du Doliprane pédiatrique. Donc, s'il y a un problème, Sanofi a eu des grèves, un mouvement social cette année. S'il y a plus de concurrence sur le marché, évidemment, ils peuvent prendre le relais.
Question annexe, au moment de la crise du Covid, le gouvernement voulait renationaliser la production de paracétamol, mais apparemment, on n'a pas de problème pour trouver la matière première aujourd'hui.
Alors, le Doliprane est fait en France, mais il faut un ingrédient, c'est une molécule qui s'appelle effectivement le paracétamol, qui elle est importée à 100% de Chine, des États-Unis, d'Inde. Donc, Emmanuel Macron a dit pendant le Covid, on va relocaliser et construire une usine en Isère pour faire du paracétamol français. Bah, a priori, ça n'aurait servi à rien ces derniers mois. Les laboratoires disent qu'ils en ont trouvé suffisamment. Alors, est-il utile de dépenser 100 millions d'euros d'argent public pour faire cette usine ? Certains spécialistes du médicament se posent la question. Après, il est toujours dangereux de dépendre évidemment à 100% de l'étranger. Donc, autant relocaliser une partie, dit le gouvernement ou disent également les laboratoires. C'est plus prudent.
C'est une question de bon sens, effectivement. Merci beaucoup, Virginie.
Dans un instant, on va parler poubelle, Pascal.
Exactement, poubelle verte. Vous savez, par exemple, la poubelle verte, c'est pourquoi ?
Ça dépend des endroits. Moi, j'ai pas de verte, par exemple, à Paris.
C'est pas la même couleur partout.
Moi, j'ai une verte à Paris. Quoi, j'ai un clapet, un truc au-dessus, là. Comment ça s'appelle
dehors ? Un couvercle.
Un couvercle, exactement, un clapet. Vert, alors, j'ai un jaune, mais j'ai pas de gris, j'ai l'impression. Compost, vous êtes un peu perdu. On est
le gris,
perdu
le compost, c'est marron. C'est une petite, elle est marron.
Ah, chez moi, il n'y a pas de marron. Il y a du vert et du jaune. On en parle tout de suite.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. RTL Midi, votre vie.
Et oui, on en parlait parce que l'info, c'est aussi ce qui fait notre quotidien et parfois, effectivement, nous sommes perdus. Comme vous le savez, qui avait inventé une poubelle.
C'est ça.
D'où le nom de la poubelle.
Exactement. Comme quoi, on n'est pas toujours à la postérité pour ce qu'on imagine. Les poubelles, donc, et cette question que vous vous êtes certainement déjà posée. Mais ça va dans laquelle ? Depuis le début de l'année, les règles ont encore changé dans certaines collectivités pour simplifier le tri des déchets. Bonjour Nathan Bocard.
Bonjour.
Rappelez-nous d'abord les grandes règles.
Alors rien de plus simple, Céline. Tous vos emballages vont au même endroit, c'est-à-dire dans le bac de tri, à la poubelle jaune, dans la plupart des cas, mais pas partout. Quand je dis tous vos emballages, c'est vraiment tous. C'était déjà le cas pour le carton, le métal et la plupart des plastiques. Désormais, on ne fait plus de différence entre les différentes formes de plastique.
Ça veut dire que je ne m'inquiète plus de savoir si c'était un emballage en contact direct avec la nourriture ou pas, peu importe aujourd'hui.
Exactement, ça concerne aussi bien les bouteilles que les barquettes qui contenaient de la nourriture, les pots de yaourt, les flacons, même les films plastiques. L'intérêt, c'est justement de faire disparaître ces fameuses hésitations dont vous parlez,
d'accord.
Pascal.
D'un autre côté, je ne le savais pas avant, donc ça ne change pas grand-chose.
C'est tout l'intérêt.
Parce que là, j'apprends qu'un truc existait, mais je ne le savais pas avant.
Eh bien, comme vous, 4 Français sur 5 ont des doutes au moment de jeter leurs emballages.
Ah, oui.
Alors je vous rassure, si vous avez toujours ces doutes, Pascal, il y a un petit logo qui est en train d'arriver sur tous vos emballages. Ça s'appelle Infotri, c'est un petit dessin qui explique très clairement où est-ce que vous pouvez jeter chaque déchet.
Et si Pascal part en vacances ailleurs qu'à Paris, les mêmes règles s'appliqueront? Ce sont les mêmes dans toute la France maintenant, Nathan?
Presque. Ça concerne désormais 63 millions de Français, c'est-à-dire 98% de la métropole. Pour le reste, il faut encore un petit peu de temps d'adaptation pour les centrales de tri qui ne sont pas encore prêtes. Puis pour savoir si vous êtes ou non dans une zone où le recyclage est simplifié, vous avez une application sur votre smartphone, elle s'appelle Guide de tri. Vous indiquez votre ville et ensuite, dès que vous avez un doute sur un emballage, vous tapez son nom, par exemple barquette de champignons, c'est très précis. Et l'application vous dit tout de suite dans quelle poubelle vous pouvez l'acheter selon les règles en place dans la ville où vous êtes.
Je pense que tout le monde va faire ça. Qu'est-ce que je continue à jeter dans ma poubelle? Poubelle, disons, normale, donc celle qui est verte.
Déjà, les déchets organiques, ça ne change pas. Donc, vos épluchures de légumes, vos restes de dîner, si vous ne les conservez pas, vos produits périmés, bref, tous les déchets alimentaires. Non, les cartons, ça ira dans le bac de tri.
Vous n'avez rien écouté déchets... au début de la chronique de Nathan, parce que c'est pas possible.
Là, je parle des déchets alimentaires,
oui, bien
donc.
Sûr, bien sûr.
Et aussi les produits déjà utilisés ou jetables.
Les cartons, il n'est pas dans la poubelle verte.
Non, c'est la jaune.
C'est dans la poubelle jaune, justement. C'était déjà le cas avant, ça.
Oui.
Et puis on pense
mais les
aussi aux
feuilles
produits...
de papier aussi, d'ailleurs.
Oui, exactement.
Bien sûr. Fais par plus de pédagogie.
Vous avez bien raison. On va ajouter donc à ces déchets alimentaires dans la poubelle, entre guillemets, normale, les produits d'hygiène, les cotons usagés, les couches pour bébés, les protections hygiéniques, les cotons-tiges, tout ça, c'est pour la poubelle classique, ce qu'on appelle les ordures ménagères.
Et une fois que j'ai tout trié, Nathan, qu'est-ce qui se passe pour mes déchets ?
Eh bien, sachez que tout n'est pas recyclé. Donc déjà, les ordures ménagères dont on vient de parler, elles sont soit mises dans des décharges, soit brûlées. Dans certains cas, d'ailleurs, on va faire de l'énergie grâce à cette incinération. Puis pour les emballages, ils vont être triés pour extraire ceux qu'on peut recycler, c'est-à-dire environ 65% d'entre eux. Le reste, il y a deux catégories. D'abord, 15% qui sont envoyés dans des filières de recyclage qui sont en phase de développement. Elles doivent encore faire leurs preuves. Et d'ailleurs, c'est l'intérêt de cette simplification du tri. Pour faire court, plus vous jetez d'emballages différents, plus ces filières peuvent expérimenter, faire des tests et améliorer leur méthode de recyclage. Enfin, si vous suivez bien et que vous êtes fort en maths, vous avez compris qu'il reste 20% d'emballages dont je n'ai pas encore parlé.
Oui, j'allais vous le dire.
Parce que cela, je sais, parce que vous m'écoutez attentivement,
oui.
Pascal, eh bien ces 20%-là...
Qu'est-ce qu'on en fait de ces emballages ?
Eh bien, ils ne sont pas recyclables du tout, en tout cas pour l'instant. Donc c'est le cas par exemple des paquets de chips, ils sont trop complexes, c'est un mélange de différents matériaux qu'on n'arrive pas encore à recycler. Eh bien, ces 20%-là, comme les déchets ménagers, pour l'instant, ils sont incinérés.
Et là, on n'a pas parlé du verre, Nathan, puisque c'est une filière particulière.
Oui, le verre, c'est encore une autre filière de recyclage. Là, c'est assez simple, une poubelle à verre. Enlevez les petits bouchons en plastique quand il y en a sur vos bouteilles, mais tout le verre va au même endroit.
C'est clair, Pascal ?
C'est extrêmement clair,
j'espère.
Et grâce à Nathan. Merci beaucoup. Il est 12h26. On revient avec l'info à 12h30 et la grande édition de Céline, à tout de suite.
Votre avis compte. Venez l'exprimer sur RTL au 32-10.
50 centimes.
RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous. Si vous étiez déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est pile 12h30.
RTL midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Praud.
Et donc Céline, c'est reparti pour une nouvelle semaine d'information avec un en point d'orgue ce jeudi qui arrive et qui va mobiliser toutes les énergies de RTL.
Quelle mobilisation contre la réforme des retraites? C'est le sujet de la question du jour sur notre site rtl.fr, cette réforme des retraites. Connaissez-vous, vous, votre année de départ? Vous êtes invité à nous répondre sur le site. Tous les syndicats, en tout cas, appellent à manifester. Des préavis de grève sont déjà déposés dans l'énergie, les transports. Va-t-on vers une paralysie du pays? La mobilisation sera, en tout cas, scrutée par le gouvernement, l'exécutif, qui, pour calmer la colère sociale, mise aussi sur son panier anti-inflation. On vous dira tout dans une dizaine de minutes. Dans cette édition également, un jeune de 16 ans mort poignardé devant un lycée de Thiès ce matin. Un affrontement entre bandes rivales pourrait être à l'origine du drame. On sera sur place dans un instant. Le mafieux le plus recherché d'Italie, enfin arrêté après 30 ans de cavale. Le Paris Saint-Germain qui n'impressionne plus, ça c'est du football. Et puis juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT midi. Aujourd'hui, on parlera cinéma sur les hauteurs de l'Alpe d'Huez. Stéphane Boutsock sera en direct du festival qui s'ouvre ce soir.
On parlera évidemment de tout ce sujet avec les auditeurs. Faut-il en finir avec les trottinettes électriques en libre service? Ce sera également un des sujets du jour.
La météo, ce sera à la fin du journal, comme d'habitude avec vous, Peggy Broche. Mais déjà un indice pour cet après-midi.
Encore un temps bien agité avec de la pluie, de la neige et du vent.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h, RTL Midi.
Un jeune de 16 ans est donc mort poignardé ce matin devant un lycée de Thiès dans le Val-de-Marne. Un autre adolescent a été blessé. Tout ça, Antoine Cavallero, s'est passé en début de matinée. Il pourrait s'agir d'un affrontement entre bandes rivales.
Oui, ça s'est passé tout près de ce lycée entre 8h et 9h ce matin. Deux lycéens qui ont été agressés par une bande entre 5 et 10 individus. L'un d'eux a été touché au cœur par un coup de couteau, coup mortel. L'autre a reçu un coup à la cuisse. Il est hospitalisé. Ses jours ne sont pas en danger. Son témoignage va être essentiel pour l'enquête. Les agresseurs présumés sont activement recherchés. Les forces de l'ordre sont en train d'exploiter les images de vidéosurveillance. Alors, il faut le préciser, la rivalité entre quartiers, entre Thiès et Choisy-le-Roi est forte. Des affrontements ont déjà eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, en tout cas ici, devant le lycée de Thiès où nous nous trouvons. C'est évidemment l'émotion qui domine après ce terrible drame.
Antoine Cavallero en direct de Thiès, donc dans le Val-de-Marne, pour RTL.
RTL Midi.
Contestation ou résignation? Alors que la majorité des Français semble opposée à la réforme des retraites, le gouvernement devrait avoir un début de réponse, évidemment, jeudi.
Avec la première grande journée de mobilisation à l'appel de tous les syndicats, appel relayé aussi par une partie de l'opposition, Sylvie, infirmière à Bordeaux, sera dans la rue jeudi, contrairement à Anthony, 37 ans, témoignage croisé.
Moi, j'ai de la chance de partir maintenant, mais tout le monde n'a pas cette chance.
Fondamentalement, je ne suis pas contre la réforme, bien que je ne sais pas trop ce que j'aurai comme retraite à mon âge. C'est quand même quelque chose de compliqué, peu importe par quel bout on le prend, il y aura des mécontents.
Avant, on avait la pénibilité qui était vraiment reconnue. Là, on ne sait pas à quelle sauce elle va être mangée. Et je pense qu'il faudrait faire au cas par cas, suivant le travail.
Quand on commence à travailler à 19 ans ou à 23 ans, comme ça a été mon cas, il faut le prendre en compte, je pense, dans le système universel, pour avoir quelque chose d'égalitaire, quoi.
Les propos recueillis par Clara Etchari à Bordeaux, donc pour RTL. Combien seront-ils donc jeudi dans la rue? Le pays sera-t-il paralysé? On sait que la mobilisation sera suivie dans le secteur de l'énergie, dans les transports. Pour le reste, c'est plus incertain. La longueur des cortèges sera en tout cas guettée et de près par l'exécutif, Thomas Després.
Oui, résumé d'un député Renaissance la semaine dernière, à moins d'un million de manifestants, on peut tenir, sinon ça va commencer à vraiment devenir tendu. En vérité, ce n'est pas tant le nombre de manifestants qui enquêtent en coulisses, mais leur profil. La mobilisation se limitera-t-elle aux seuls adhérents de la CGT ou bien les organisations de jeunesse seront-elles également présentes en masse? La crainte d'éventuels débordements fait aussi partie des points qui seront scrutés de près, mais des éléments rassurent la majorité ces dernières heures. Les remontées des traditionnelles cérémonies de vœux et des tractages sur les marchés ce week-end sont plutôt bonnes. De la réforme des retraites, il en a très peu été question et les députés ne se sont pas fait lyncher. Oui, personne n'est ravi de travailler plus longtemps, explique un député, mais la grogne annoncée n'est pas là, du moins pas encore. Une forme d'apathie, de découragement sur laquelle l'exécutif continue de miser.
Thomas Després du service politique de RTL, et je vous rappelle que si vous avez des questions sur cette réforme des retraites, sur ce qu'elle changerait pour vous, RTL se mobilise. Vous pouvez nous écrire par mail à l'adresse brigade@rtl.fr. Toutes les réponses mercredi lors d'une journée spéciale, notamment dans RTL Midi. Et puis toutes les réponses à retrouver aussi sur notre site rtl.fr. À propos d'économie, toujours, Gosport est-il en cessation de paiement? Le tribunal de commerce de Grenoble se prononcera jeudi après l'examen du dossier de ce groupe, groupe qui distribue des articles sportifs et qui emploie plus de 2000 salariés en France.
Nous partons à l'étranger, en Italie. 30 ans que la police était à ses trousses, le mafieux le plus recherché du pays a été arrêté ce matin.
Oui, c'est un Sicilien, Matteo Messina Denaro, l'un des parrains de Cosa Nostra. Il était introuvable depuis 30 ans, vous le disiez. Sa cavale a donc pris fin ce matin à Palerme. Un soulagement dans la péninsule, Olivier Bonnel, et qui fait évidemment la une.
Eccoci, bentornati qui su Sky TG24. 30 anni e un giorno dopo la
Tous les journaux télévisés italiens ont ouvert sur la nouvelle de cette capture si espérée. Matteo Messina Denaro a été arrêté par les carabiniers dans un bar non loin d'une clinique où il se faisait soigner sous un faux nom. Pendant des années, celui qu'on surnommait Ussicu, le maigre ou diabolique, a fait régner la terreur. Fils lui-même d'un parrain de la mafia de la région de Trapani à l'ouest de la Sicile, Denaro s'était évanoui dans la nature à l'été 1993. Aucune photo récente de lui n'existait, hormis les portraits robots vieillis de la police. Il avait été condamné par contumace à la perpétuité pour une série de meurtres. Le plus sanglant, en 1996, celui d'un adolescent fils d'un repenti dont le corps a été dissous dans de l'acide. Preuve du soulagement en Italie, ces images des forces spéciales des carabiniers qui se congratulent après l'arrestation du boss et les applaudissements des riverains à Palerme. La première ministre Giorgia Meloni a salué, elle, une grande victoire pour l'État italien.
Olivier Bonnel en Italie pour RTL.
Rien ne va plus au Paris Saint-Germain. Deux défaites depuis le début de l'année pour le champion en titre.
Après Lens, c'est Rennes qui a fait tomber hier soir le club de la capitale. Un accro qui n'inquiète pas plus que ça en apparence. Le club ne change d'ailleurs rien à son programme et s'apprête, Philippe Sanfourche, à s'envoler pour une tournée dans le golfe persique.
Oui, pas question d'ailleurs de parler de crise, tout juste d'une prise de conscience que la reprise n'est pas bonne. C'était prévu, envisagé au regard du nombre de joueurs absents durant la Coupe du Monde et mobilisés par des grandes sélections. Mais plutôt que de se recentrer sur l'essentiel et s'enfermer à double tour au camp des loges pour s'entraîner plus durement, la direction du PSG a préféré programmer cette semaine une tournée commerciale au Qatar et en Arabie Saoudite. Un devoir plus qu'un choix, puisque ces prestations sont dues aux partenaires et sponsors du club qui payent très cher et qu'il faut choyer. Alors que le club accuse un déficit record sur l'exercice précédent de près de 370 millions d'euros, il est plus que jamais indispensable d'augmenter les revenus pour assumer le contrat XXL signé par Kylian Mbappé, mais aussi espérer conserver Lionel Messi une saison supplémentaire. Le PSG a donc la tête dans les chiffres en ce moment, un peu moins au terrain, et c'est maintenant que l'on va voir si l'entraîneur Christophe Galtier, recruté l'été passé, est capable de surmonter ce premier début de crise depuis son arrivée.
Philippe Sanfourche.
Et en marge du terrain, on a appris qu'Anne Hidalgo refusait de vendre le Parc des Princes aux Qataris ou au Paris Saint-Germain. Vous pourrez réagir sur ce thème avec les auditeurs tout à l'heure.
Un mot de tennis, ça passe dans la douleur pour Nadal à l'Open d'Australie. L'Espagnol tenant du titre a cédé un set avant de s'imposer face au Britannique Jack Draper. Qualification aussi chez les Français de Corentin Moutet et chez les dames de Clara Burel.
RTL Midi. 90 000 clients toujours privés d'électricité après le passage de la tempête Gérard.
Ça se concentre dans l'Ouest où 1650 salariés d'Enedis sont mobilisés. C'est le cas à Nord-sur-Erdre, près de Nantes, où vous êtes, Nicolas Bobby.
200 foyers sont privés d'électricité. Dans une nacelle bleue, les techniciens réparent la ligne.
Vous êtes prêts les gars? Accrochez, desserrez, décrochez, basculez.
Marion Bonnetin, d'Enedis, Loire-Atlantique.
Là, le vent ayant faibli, ça nous permet d'intervenir en hauteur. Nous avions 6 câbles qui étaient connectés les uns avec les autres. Il y en a un qui s'est déconnecté.
Georges habite les Touches. La tempête Gérard ne lui a pas fait de cadeau.
Il a fait un sacré coup de vent sur mon balcon, quoi. Et puis, tout mon mobilier de balcon s'est envolé, quoi.
Cette nuit, au pied du poteau électrique, le vent a soufflé à 120 km/h.
Nicolas Bobby, la SNCF, elle enregistre une trentaine d'incidents sur ces lignes liés à la tempête. Difficulté majeure sur l'axe La Rochelle-Paris. La circulation est pour l'instant complètement interrompue. Reprise du trafic estimée à ce stade à 16h30. On parlait tempête. Peggy Broche, on vous retrouve. C'est plus calme, oui. Vous nous promettez cet après-midi. Ça
c'est
ira
plus
mieux.
Calme, même si le vent est encore bien marqué. Hein, ça, on a relevé d'ailleurs en fin de matinée du 110 km/h à Étampes dans le sud de l'Essonne en région parisienne, 106 km/h à Orléans de relevé. Donc ça souffle encore jusqu'à bien 90 km/h dans les terres. Donc on a 17 départements qui sont encore en vigilance orange. Alors pour neige, verglas, ça concerne la Lozère et le Cantal. Pour crue, le Pas-de-Calais. Et 14 départements sont en vigilance orange pour vent entre la Seine-Maritime, l'Île-de-France et la Marne. Les pluies sont en train de s'évacuer par les frontières du Nord et de l'Est, avec quelques flocons sur les frontières du Nord, ça reste anecdotique. Mais on a beaucoup de neige, et on en a besoin en même temps, sur tous les massifs. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes, tout comme sur la montagne Corse, où on a beaucoup de pluie aussi. Bien pluvieux aussi dans le Sud-Ouest, et partout ailleurs sur un large quart Nord-Ouest. C'est un ciel de traîne, mais une traîne chargée, active, avec des averses, parfois du grésil, un coup de tonnerre possible sur la façade atlantique, et une petite poche d'éclaircies entre la Normandie et le centre-Val des Loires, tout comme près de la Méditerranée, mais avec du vent, tout ça sous des températures en baisse, mais on revient à des normales de saison. 5 à Rouen cet après-midi, 6 à Lille, 8 à Tours, 9 à Toulouse, 11 à Biarritz, 13 à Marseille et 15 à Bastia.
Merci Peggy.
RTL avait inventé le panier RTL et le gouvernement veut inventer le panier anti-inflation. On en parle avec Pierre Herbulot.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL Midi. Pascal Pro et Céline Landreau.
Vous connaissez le panier RTL, voilà le panier anti-inflation. Et pour en parler, Pierre Herbulot, l'homme du panier RTL, nous a rejoint. Bonjour Pierre, rebonjour même.
Rebonjour.
C'est un projet du gouvernement proposé en grande surface à un panier composé de produits de base aux prix les plus bas possibles. Qu'est-ce qui contiendrait ce panier, par exemple ?
Alors, on est vraiment aux prémices des discussions, donc rien d'extrêmement concret. Le gouvernement parle de produits d'hygiène pour bébés et pour adultes, donc on peut facilement imaginer des couches, du gel douche, du dentifrice, du shampoing. Il parle aussi de produits laitiers, donc du lait, du beurre, des yaourts, et puis des pâtes, du riz, des produits frais aussi, hein, donc sans doute des produits de saison qui évolueraient en fonction de leur disponibilité. C'est sûr que si ça se fait dès le mois de mars, ce ne sera pas des tomates, parce que déjà c'est pas la saison, bon. C'est pas bon en plus. Donc pourquoi pas du poireau, des choux-fleurs ou des endives. L'idée c'est d'avoir un socle de produits de première nécessité dont les prix sont les plus bas possibles, précise le cabinet d'Olivia Grégoire en charge de la consommation au gouvernement.
C'est-à-dire que les gens doivent être étonnés comme moi en vous écoutant. C'est le gouvernement qui décide de ce panier, qui décide des choses qu'on met dans ce panier, qui l'impose.
Alors,
au supermarché ou
là pour l'instant, on discute.
Mais quel est l'intérêt ?
Alors, ben, l'intérêt, c'est d'avoir très clairement dans les hypermarchés des prix bas qui ressortent, j'allais dire, que le consommateur, en arrivant dans l'hypermarché, sache où aller pour trouver les prix les plus bas sur une sélection de produits, que ce soit pas un petit peu comme ça a été le cas au printemps dernier, si vous voulez, un petit peu chaque enseigne qui fait son propre plan anti-inflation. On parlait de boucliers dans une enseigne, on parlait de 100 produits bloqués dans une autre. L'idée, c'est que ce soit extrêmement clair pour tout le monde. J'arrive.
Mais c'est les produits libres, généralement des supermarchés, qui sont le plus bas possible. Il y a déjà ce genre de choses.
Les marques distributeurs. Alors, le produit le plus bas possible, qui sont moins chers, oui. Le plus bas possible, c'est autre chose. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le cas. C'est pas parce qu'ils sont moins chers qu'une marque qu'ils sont
le moins cher
minimum.
Possible.
Voilà, c'est un petit peu la nuance. Alors, est-ce que ce sera le même partout ? Ça, pour l'instant, ça fait partie des discussions. C'est la volonté du gouvernement, justement, pour que ce soit plus lisible, que ce soit qu'il y ait cette harmonisation, justement. L'inspiration, c'est clairement la Grèce. Il y a un panier en Grèce de 51 produits pour le coup, à prix bloqué. C'est-à-dire que les distributeurs sont obligés de les vendre sans augmenter le prix, voire parfois à perte. Même. Alors chez nous, pour l'instant, c'est impossible.
Pourquoi on n'enlève pas, par exemple, la TVA sur 50 produits ? Ce serait plus simple.
Ouais, ça, vous posez la question à Olivia Grégoire, elle vous répondra mieux que moi.
Non, mais ça serait plus simple et plus clair. Voilà, il y a 50 produits de nécessité, tu enlèves la TVA.
Alors
ça,
nous,
c'est
on est sur une vingtaine, là, pour l'instant.
Oui, alors mais une vingtaine, très bien.
Sur le projet. Alors, pour que ce soit très clair, on ne parle pas d'un panier tout fait qu'on achèterait parce qu'on n'a pas tous besoin d'acheter des. Voilà, exactement.
Oui.
On n'a pas tous besoin de couches. Ou alors, peut-être que Pascal n'aime pas les endives ou les poireaux.
Vous pensez que j'en avais besoin.
Je ne le permettrai pas. Mais donc, en fait, voilà, c'est vraiment l'étiquetage en rayon.
Enfin, c'est
extrêmement clair.
J'ai l'impression que c'est une usine à gaz, si vous me permettez cette idée.
D'ailleurs, ils en disent quoi, les supermarchés, Pierre ? Ils sont.
Alors,
Michel-Édouard Leclerc trouve l'idée intéressante, d'après un contact à Bercy. Je n'ai pas eu le temps de tous les avoir. Hein. Je ne sais pas ce que pense encore Carrefour, Auchan ou Système U. Après, il y a des difficultés, parce que ce que voudrait faire le gouvernement, c'est comme en Grèce, créer un site internet où on pourrait répertorier tous les paniers en France, savoir lequel est le plus proche de chez vous, mais les répertorier avec le prix, parce qu'ils n'ont pas le droit de se mettre d'accord sur le prix. Ça, c'est interdit en France. Mmh. Et puisqu'on ne peut pas fixer un prix minimum, ça voudrait dire qu'on verrait clairement qui est le moins cher, pour reprendre le slogan justement d'un distributeur.
Bon,
ça va pas plaire à tout le monde.
C'est de la com, c'est de l'affichage.
Comment dire, c'est-à-dire que c'est une semaine qui est particulière. Il y a une grande journée de manifestation ce jeudi.
C'est pas donner notre avis, c'est de mettre en perspective, c'est de la com.
Exactement, je vous réponds. Alors, il y a cette grande journée de manifestation. On parle de plus en plus, on en a parlé la semaine dernière sur RTL, de mars rouge, ce mois de mars, à l'issue des négociations commerciales où on sait que l'inflation va connaître un nouveau cap, qu'on pourrait connaître un pic d'inflation. Donc,
les négociations commerciales, on le rappelle, c'est les négociations entre les industriels de la agroalimentaire et les grandes surfaces, c'est en train de se jouer.
C'est ça.
Et les tarifs pourraient bondir.
Les industriels demandent 12% d'augmentation de prix, donc imaginez-vous un petit peu si là les courses coûtent d'un mois sur l'autre 12% de plus, on n'en est pas là, mais c'est l'idée. Donc en fait, le gouvernement a bien ça en tête. Il faut aussi avoir en tête qu'il y a ce chèque alimentation dont on parle depuis un an et demi, que personne n'arrive à mettre en place. Donc là, sortir ce panier de prix bloqué sur le modèle de la Grèce, en Grèce, c'est 25% de pouvoir d'achat économisé pour les Grecs qui achètent les produits de ce panier. Donc c'est considérable. En France, ça pourrait pas être la même chose parce qu'on peut pas vendre à perte. Mais voilà, il y a tout ça à prendre en compte et le gouvernement le sait très bien en proposant ça à 3 jours de la grande journée de manif.
Et il peut l'imposer d'ailleurs, l'exécutif, ce panier ou pas, si les grandes surfaces disent non, on n'en veut pas?
Alors théoriquement il peut, mais il faudrait légiférer et ça prendrait du temps. Le problème c'est qu'ils veulent aller vite, ils veulent le mettre en place dès
les grandes surfaces pourraient le faire elles-mêmes, tout simplement. Je trouve que c'est une bonne idée pour une grande surface, pour attirer le client. Ça, ce qui est étonnant, c'est que ce soit une initiative gouvernementale.
Et en fait, si vous voulez, il y a autre chose qui joue cette semaine et qu'il faut prendre en compte pour comprendre un petit peu ce dossier. Il y a une proposition de loi qui doit être votée cette semaine à l'Assemblée nationale et qui propose d'encadrer les promotions et de fixer un seuil de revente à perte de 10%. Ça veut dire en gros que Carrefour ou Auchan, quand il achète le paquet de pâtes 1 euro, il ne peut pas le vendre moins d'un euro 10. Ça, justement, les grandes surfaces étaient contre parce que ça ne leur permet pas de se livrer leur guerre des prix bas, d'essayer d'attirer les clients. Et donc, ils sont très en colère contre ça. Ce n'est pas sûr qu'ils aillent dans le sens du gouvernement là-dessus parce qu'ils ne sont pas entendus sur ce dossier-là, parce qu'ils voudraient justement pouvoir vendre moins cher. Donc, il y a une espèce de conflit entre la volonté d'un côté et la proposition de loi de l'autre. On va voir comment ça va se nouer, mais c'est un peu mal embarqué.
Merci beaucoup. Écoutez, merci. Pierre Herbulot, je crois que vous allez rester avec votre panier RTL pour l'instant.
Celui-là, il bouge pas.
Celui-ci, au moins, il est bien installé. Merci, Pierre.
Il a de la chance, Stéphane Boutsock, parce qu'il est à l'Alpe d'Huez et peut-être qu'il y a de la neige qui est arrivée. Je ne sais pas s'il est déjà avec nous, Stéphane.
Si, il est déjà avec vous.
La neige
vous confirme.
Est là.
Oh bah depuis hier, depuis que j'ai franchi le cap des 1000 mètres dans un des 21 virages, je peux vous dire, il tombe de la neige, ça n'a pas arrêté. Donc c'est tout blanc.
Quelle chance vous avez. Et puis vous allez parler évidemment du 26e Festival International du Film de Comédie qui démarre ce soir en partenariat avec RTL. A tout de suite.
L'actualité vous concerne.
Sur RTL, venez en débattre au 32-10.
50 centimes la minute.
RTL.
Laissez-vous tenter midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi et on vient d'apprendre, Stéphane Boutsock, que Gina Lollobrigida était décédée. Elle avait 95 ans. Et pour nous, les spectateurs français, il y a deux films qui sont dans l'histoire du cinéma français que les plus anciens se souviennent, Stéphane.
Oui, bah, de toute façon, c'est une actrice mythique, majeure du cinéma italien, européen et mondial des années 40, 50 et 60. On se souvient, alors je ne sais pas si c'est le film auquel vous faites allusion, mais il y a évidemment Fanfan la Tulipe.
Évidemment.
Et puis il y a Notre-Dame de Paris.
Évidemment,
et puis, il y a
c'est les deux
Pain,
films.
Amour et Fantaisie. Enfin voilà, il y a à la fois d'immenses classiques du cinéma italien et de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma italien. Et puis aussi, à un moment de sa carrière, Gina Lollobrigida a privilégié, ou en tous les cas voulu explorer, des pistes d'un cinéma beaucoup plus populaire aussi, de la comédie, du film d'aventure. Et c'est évidemment une immense figure qui s'éteint, immense figure de ce cinéma-là, de cet âge d'or du cinéma italien européen des années 50-60.
Elle est Esmeralda avec Anthony Quinn dans Notre-Dame de Paris, et elle est avec Gérard Philippe
dans Fanfan
la Tulipe.
Absolument. Grande, grande comédienne. Alors, qui avait pris ensuite, à partir des années 70, beaucoup de recul avec à la fois Hollywood. Elle a tenté cette aventure-là, ça n'a pas vraiment fonctionné. Et puis, avec le cinéma, elle est devenue photographe. Elle a fait beaucoup d'autres choses. Ça fait quand même quelques années qu'on ne l'avait pas vue, mais ça restait, évidemment, une de ses figures majeures, comme Sophia Loren, comme toutes ces grandes actrices italiennes qui nous ont tant marquées.
Stéphane, on le disait juste avant la pause, vous nous parlez en direct de l'Alpe d'Huez en Isère.
Oui.
Puisque le 26e festival de films de comédie démarre ce soir en partenariat avec RTL. C'est le premier grand rendez-vous de l'année pour le cinéma français.
Oui, absolument. C'est un rendez-vous qui est devenu incontournable et qui permet aux équipes de films de tester auprès du public. Ici, il y a des milliers de spectateurs pendant la semaine. Les productions qui vont arriver sur nos écrans dans les mois qui viennent, c'est en fait un test grandeur nature, à la fois attendu et redouté, parce que parfois les retours du public sont assez cash. C'est ici, par exemple, à l'Alpe d'Huez, que le phénomène des ch'tis a démarré en 2008, ou encore Babysitting. Ça, c'était 2014. Je pourrais aussi vous citer La Première Étoile, Tout ce qui brille, Radio Star, ou encore Les Tuches 2, qui avait été montré ici en ouverture.
Alors, quel est le programme ou les personnalités attendues cette année, Stéphane ?
Je vous parlais de Babysitting. Eh bien, Philippe Lachaud et sa bande présenteront ce soir en ouverture leur nouveau film Alibi.com 2, avec aussi belle affiche Gérard Jugnot, Nathalie Baye, Didier Bourdon ou Ariel Dombal. Et puis, dans la semaine, on attend ici en Isère Franck Dubosc, Michael Youn, Valérie Bonneton, Clovis Cornillac, François Damiens, Claire Nadeau, Patrick Timsit, Thierry Lhermitte, Fabrice Lucchini et bien d'autres. Sans oublier, je trouve que c'est une très bonne idée, un hommage à Jean-Marie Poiré, le réalisateur, entre autres, des Visiteurs, du Père Noël est une ordure ou encore de Papy fait de la Résistance.
Mais Stéphane, l'Alpe d'Huez, c'est pas qu'une série d'avant-premières, il y a une vraie compétition aussi.
Absolument, avec très souvent un impact concret sur les films primés ici, puisque les producteurs, les distributeurs sont très attentifs aux premiers échos de l'Alpe. Le label Alpe d'Huez compte beaucoup, à la fois auprès de la profession, mais aussi des spectateurs. D'ailleurs, le prix du public est le plus convoité, c'est-à-dire que les spectateurs votent en sortant de chaque projection. Alors, qui dit compète, dit jury. Cette année, il est composé des comédiennes Camille Chamou, Bérangère Krief, du comédien québécois Antoine Bertrand, de l'auteur-réalisateur Stéphane Foenkinos, et puis tout ça sous la présidence de Karine Viard, qui souhaite, écoutez-la, travailler avec sérieux, d'accord, mais aussi en s'amusant.
Moi, j'ai plutôt envie que ce soit sous le signe de la joie. On s'est tapé le Covid, c'est quand même un festival de comédie. Il n'est pas question que mon jury et moi-même nous nous prenions trop au sérieux. C'est une petite station, tout le monde se retrouve plus ou moins dans les mêmes endroits. Donc j'ai assisté des années à des jurys qui étaient un peu dans leur tour d'ivoire, des équipes de films un peu parano, et je veux pas ça, moi. Je veux avoir un devoir de réserve, mais je veux avoir la liberté de choisir ce que j'ai envie de choisir. Et j'ai envie d'avoir la liberté aussi d'être que notre jury soit très chaleureux avec les gens qui viennent présenter leurs films, parce que c'est quand même une épreuve, parce que c'est un festival qui a fait ses preuves, et c'est un festival quand, voilà, quand t'es labellisé l'Alpe d'Huez, ça veut dire quelque chose en comédie. Donc on a cette responsabilité-là, mais il faut que ça reste joyeux, quoi. Il n'y a aucune raison de souffrir parce que tu vas à un festival et que personne te parle et que c'est comme si tu avais couché avec les Allemands, au secours quand même. Hein. Mais j'ai vu ça, hein. J'ai vu ça, j'ai trouvé ça terrifiant.
Karine Viard, présidente du jury du 26e Festival International du film de comédie. Non, mais vous savez, des fois, il se passe des choses en coulisses, les gens arrivent de mauvaise humeur, ça peut se passer mal. Il y a eu des films qui ont été très, 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 très mal accueillis ici. Donc après, on fait un peu la tronche au dîner, vous voyez ce que je veux dire.
Bon, Alibi.
Ça démarre donc ce soir.
Alibi.com 2, Alibi.com, c'était un vrai succès le premier. Mais vous l'avez vu déjà ou ça sera la première fois qu'il va être projeté en avant-première?
Alors, pour tout vous dire, comme on reçoit Philippe Lachaud ce soir à 18h30 avec Julien Cédric dans RTL Soir. Moi, j'ai vu le film avant. Je peux vous dire, c'est très, très, très
c'est
réussi.
Le casting,
c'est peut-être même mieux, à mon avis, que le premier, figurez-vous. Ouais, parce que le casting de la nouvelle génération de la bande à Fifi Lachaud, plus les Jugnot, les Dombal, les Nathalie Baye et les Bourdon, ça fonctionne vraiment très, très bien.
Donc, ça, c'est ce soir à 18h30 chez Julien Cellier. Et puis, toute la semaine, vous nous ferez vivre ce festival, justement, dans RTL Soir. Merci beaucoup, Stéphane Boutsock.
Merci et bonne semaine. Il est 12h58, la pause et nous partons avec les auditeurs. On a plein de sujets à évoquer, puis on pourra évoquer bien sûr Gina Lollobrigida pour les plus anciens. Vous vous rendez compte que elle a tourné avec Gérard Philippe. Gérard Philippe est mort quand même en 1959, je crois, ou 1960. Donc, et c'était un Fanfan la Tulipe, c'était un immense succès. Les enfants regardaient ça quand ça passait à la télévision.
Avoir écouté Le Petit Prince, lu par Gérard Philippe aussi.
Exactement. À tout de suite.
RTL Midi.